One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Ce qui est important, c'est ressentir ce dont je te parlais avant pour chacun d'entre eux. Créer cette espèce de, d'intelligence, de respect, de confiance. Aussi, moi, on m'a énormément fait confiance. Je trouve que c'est super valorisant de faire confiance à un gamin, avec des règles, bien entendu, mais des règles qui ne sont pas arbitraires.
Exécuté par
qui ?
Fabrice Florent.
Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où chaque lundi, à partir de 6h du matin, je donne la parole à un père pour lui faire causer de son expérience de la paternité. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès, je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité, je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de plein d'autres thèmes que je vous invite à découvrir en allant sur mon site fabflorent.com, fabflorent.com. Si vous aimez cet épisode, vous pouvez aller écouter la bande-annonce du podcast pour en découvrir plus sur mon travail et mes autres podcasts. Si vous aimez mon travail, vous pouvez m'offrir un cadeau en échange en me soutenant financièrement et ainsi me donner un peu plus de sérénité en vous abonnant par exemple à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent sonnant et trébuchant. Allez dans les notes du podcast ou en allant sur fabflorent.com, fabflorent.com, donc vous y trouverez toutes les infos. Enfin, si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner, mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre application de podcast préférée et surtout, partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu. Je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser. Vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord. Alors Discord, c'est un petit logiciel génial que je vous invite à découvrir, qu'il faut installer sur votre téléphone ou votre ordi. Vous pouvez également me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. Philippe, salut.
Salut.
Comment ça va ?
Écoute, maintenant très bien.
Pourquoi maintenant ?
J'ai perdu ma maman en avril, donc j'ai eu une période un peu compliquée et puis là maintenant ça va. Je sors un peu de cette période unique.
Unique ?
Ouais.
C'est-à-dire ?
52 ans avec quelqu'un et d'un seul coup l'avoir disparu. J'ai pas du tout eu ça par rapport à mon père parce que mon père était proche de moi. Il est mort du jour au lendemain. Il avait 82 ans, en pleine forme. Il bossait avec moi. On était la veille ensemble. Surprise. Triste, mais je prenais le relais, le flambeau.
Ah, ok.
Tu vois ?
Ouais.
Enfin, c'est comme ça que j'ai ressenti. Après, ma mère, c'était complètement différent. Là, c'était... elle habite en face de chez moi. Mes enfants la voient régulièrement. On était proches sans être proches, puisqu'elle m'a dit à 16 ans, va-t'en, débrouille-toi. Pas parce qu'elle avait pas envie de me voir, mais parce qu'elle voulait que je voyage.
Oui.
Et on a toujours été très proches alors que j'étais très loin.
Ok. Tu t'attendais pas à sa mort, c'est ça ?
Elle est morte d'un cancer, comme beaucoup, et qui n'était pas prévu.
Ok.
Même si c'est jamais prévu ce genre de choses. Et je l'ai découvert il y a plus d'un an, juste avant le salon de juin l'année dernière. Et puis ça a été un cumul de plein d'autres choses, perso et pro. Donc tout s'est cumulé. Donc ouais, j'ai passé la pire année de ma vie, de 51-52 là. En même temps, avant, j'ai passé 51 ans sans aucun problème. Donc je peux pas me plaindre.
Mais c'est, je trouve d'autant plus chiant que ça arrive tard, non ? Parce que tu te dis, ok, peut-être à un moment donné, je suis immunisé contre les trucs.
En fait, c'est vrai que tu as tendance à avoir confiance en toi. Et donc, quand t'as un coup qui t'arrive, les gens autour de moi n'ont pas compris et m'ont jamais vu en fait down. Et donc, tout le monde était down autour de moi. Mais professionnellement, personnellement, Et il y a un moment où je me suis dit, soit tu continues comme ça et là, il va y avoir vraiment un problème. Soit tu te réveilles et tu mets une chemise et puis tu fais ça pendant une semaine et tu répètes la semaine d'après.
Ok.
C'est ce que j'ai fait.
Il y a un peu un côté survie, j'ai l'impression, dans ce que tu racontes.
Ben ouais, parce que tu sais, quand t'es entrepreneur, tu sais ce que c'est. C'est-à-dire que t'es dos au mur. Et puis, quand tu perds quelqu'un et que le perso se met, s'y met, t'es plus dos à un mur, t'es dos à un trou, quoi. Et tu te dis, est-ce que le vent va tourner du bon sens, et est-ce que je vais tomber en arrière, ou est-ce que je vais avoir la force de pouvoir continuer à avancer. Ce qui m'était jamais arrivé, parce que j'ai toujours été très confiant et sûr de moi, mais quand tout s'enchaîne, et c'est toujours des séries, de toute façon, on le sait. Hein. Enfin, j'en avais déjà entendu parler, mais c'est comme tout, hein, tant que ça t'arrive pas, toi.
Oui. Croyez être immunisé, quoi.
Ouais.
T'en as parlé très rapidement, mais t'es entrepreneur, t'as bossé dans les médias pendant des années, et là, aujourd'hui, le projet qui t'intéresse en particulier, c'est un magazine papier qui s'appelle Podcast Magazine, c'est ça ?
Ouais, c'est une petite folie, en fait, encore. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Mais à l'origine, je suis pas un homme de médias. À l'origine, je suis plutôt un sportif.
Ok. T'as fait quoi dans le sport ?
J'étais coach de tennis, en fait.
Ok.
Ouais, c'était mon premier métier. Ma mère m'a dit à 16 ans, je voulais faire du basket. Elle m'a dit, va faire du tennis. J'ai passé ma première à Narbonne, en sport études tennis, chez Pierre Rollet. Et puis ensuite, je suis parti chez Pierre Barthès au Cap d'Agde pendant 3 ans. Après, je suis parti détaché à l'étranger pour Pierre Barthès. Et puis, j'ai fait ma carrière dans le tennis jusqu'en Suède, à coacher des pros. Et je suis revenu pour mon père, parce que je ne le connaissais pas, en fait.
À quel âge ?
Je suis revenu en 2000, okay. 71, donc j'avais 29 ans. Et là, on a commencé à travailler ensemble dans le milieu de la radio.
Pour ton père, parce que tu le connaissais pas. Tu sais qu'on est dans l'histoire de Daron, donc moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le lien de paternité, d'une manière générale, et que ce soit avec tes enfants ou avec ton Daron, quoi.
Non, je le connaissais pas parce que j'ai vécu à l'étranger, dans tous les pays. J'étais aux États-Unis chez Bolletieri pendant longtemps. J'ai été en Irlande, j'étais en Afrique, je travaillais en Afrique, détaché à l'étranger. J'étais en Espagne, enfin un peu partout. Et après j'ai fini 6 ans en Suède jusqu'en 2000. Et donc, alors lui me connaissait pas et moi je le connaissais pas. Il faisait partie des générations années 27, tu vois, donc né en 27, donc qui mettait les pieds sous la table et qui vivait à Paris, qui rentrait que le week-end et encore il était fatigué donc il dormait. Mais j'avais beaucoup d'amour, j'ai pas du tout senti de problème. Moi, quand on pouvait aller avec lui, on allait avec lui, mais c'est vrai que lui ne me connaissait pas parce qu'il n'était pas capable. Mes parents m'ont pas beaucoup suivi, en fait, sur tout ce que j'ai pu faire à l'étranger. J'ai tout fait tout seul. Ils m'ont toujours aidé. Quand j'avais des problèmes financiers ou quoi que ce soit, ils m'ont toujours aidé. Mais ils sont jamais venus quand je suis parti chez Bolletieri, que j'entraînais des jeunes joueurs. J'avais une certaine fierté quand je suis parti en Suède. Parce que j'ai aussi une petite expérience d'art dramatique où j'ai monté une troupe de théâtre en Suède et j'ai fait une super représentation dans un grand théâtre avec Cheux, qui est une petite ville, mais un super théâtre, et j'étais super fier de moi, et j'aurais tellement eu envie que mes parents puissent voir ce que j'avais été capable de faire, et ils l'ont jamais fait, pas parce qu'ils voulaient pas, mais parce que voilà, la vie fait que c'était pas des générations à s'intéresser à leurs enfants. Alors, ma mère avait 18 ans de moins, mais elle pensait beaucoup au travail, était décoratrice d'intérieur, et puis c'est tout, quoi. Donc c'est vrai que ça me manquait un peu, et c'est une des raisons pour laquelle je suis parti de Suède, parce que la Suède c'est un pays, 6 ans, bon, t'as vite fait le tour, et puis ils sont pas des latins, hein. Quand même un peu chiant.
Coucou les Suédois qui nous
écoutent. Hey, hey, hey. Non, mais j'adore, la mentalité suédoise est incroyable. Ce sont des gens d'une humilité, d'une simplicité, d'un respect des traditions, des règles. J'adore. Vraiment, j'adore. Hein. Et le pays est beau, mais je ne peux pas, moi, y vivre toute ma vie. Et donc, je suis rentré parce que j'avais envie de passer... Je savais que mon père vieillissait et j'avais envie de passer du temps avec lui pour me dire, au moins, j'aurais fait ça.
Ok.
Voilà. Et alors que, bon, j'aurais pu rester... voilà.
T'as eu un déclic qui t'a fait dire ça à l'époque ou
ouais, alors il y a eu un déclic. Il y a eu un déclic, c'est que j'étais dans un des clubs en Suède les plus connus au niveau mondial, puisqu'il y avait c'était le club de Mats Wilander.
Okay.
Il y avait donc le capitaine de la Coupe Davis qui était là, Magnus Larsson, Jonas Björkman qui était dans les top 20.
Pour les jeunes qui nous écoutent, mondiaux. C'était un petit peu le Novak Djokovic de l'époque. Hein.
Ouais, c'est ça. Voilà. Et il y avait donc l'entraîneur de Björkman qui est l'entraîneur de Rude actuel. Donc tu vois, c'est pas si c'est vieux que ça, hein, parce que Rude, il a été en finale et c'est donc et donc je suis arrivé là-bas et j'ai remplacé cet entraîneur et j'ai coaché des professionnels là-bas. Donc j'étais vraiment vraiment super fier d'être en Suède et j'ai perdu mon fil. Je sais pas pourquoi je te disais ça. J'avais un fil avant.
Je te demandais quel a été ton déclic.
Ah voilà, oui. Et le déclic, exactement, ça y est, je reviens. Attends, merci.
J'ai compris, bravo. J'ai perdu mon fils, j'étais là, ah oui.
Non, mon fil.
Oui.
Et le déclic, c'est simple, c'est que étant donné qu'il y avait des professionnels, moi j'entraînais un jeune qui avait 16-17 ans, ça faisait bien 4-5 ans que je le suivais, et je voyais que Frédéric Rosengren, donc Fide Rosengren, l'entraîneur de Rude, était avec Björkman, et Björkman montait, et il a arrêté, il est parti du club, et moi, j'ai pris sa place. Mmh. Et donc, je me suis dit, je vais faire comme lui. Je vais partir sur le tour avec un jeune, et je vais devenir le coach du prochain Björkman, du prochain Larsson, du prochain... Et ce gamin était talentueux comme pas possible. On arrive à un tournoi où il gagne ses premiers points ATP, donc les premiers points ATP, c'est pour arriver oui. à faire les grands tournois et dans le sud de la Suède, à Borås, et là il se pète le talon d'Achille.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Et donc, c'était 5 ans de travail acharné avec moi, mon rêve. Qui j'avais eu beaucoup, beaucoup d'expérience. Ça faisait 12 ans que j'étais coach, éducateur avec des gamins. Et on en parlera aussi d'ailleurs parce que ça m'a vraiment aidé pour mes gamins d'être avec tous ces enfants.
T'inquiète, j'aurais une question à un moment donné pour toi.
Et c'est vrai que le déclic, ça a été ça. Ça a été, est-ce que je veux faire toute ma vie en Suède prof de tennis ou prof de tennis? Ou est-ce que je veux plutôt retourner à mes sources en France, que j'ai commencé à encore plus apprécier parce que j'étais à l'étranger, et à être proche de mes parents. Et c'est ce que j'ai fait. Et mes décisions ont toujours été une colonne pour, une colonne contre. Ouais. Tu mets les points et puis après tu vois vite la différence.
Et de ton père spécifiquement?
Oui, parce que ma mère, j'étais toujours très proche. Elle était toujours très. En fait, elle était toujours avec moi. Là où mon père, lui, était beaucoup plus distant. Voilà, c'est la génération distante. De toute façon. Après, il n'a pas connu ses parents. À 18 ans, Brive était occupé. Il était tout seul. Il tirait dans les rues. Enfin bon.
Oui.
Voilà, respect aussi.
Oui, c'est des vies qu'on peut même pas imaginer,
Non.
J'imagine. forcément, ça, tu finis par revenir avec des bagages hein, de ce genre de ce genre d'expérience, quoi. Et c'est compliqué.
Ouais.
Je sais pas si t'as vu ce film 1917. Tu sais qui est tourné tout en de Sam Mendes, qui est tourné tout en plan séquence.
Si ça me dit quelque chose.
Et qui raconte la vie de deux gamins qui doivent aller passer un message de l'autre côté. Et j'en parle parce qu'en fait, c'est un vrai sujet avec la masculinité et la paternité. C'est qu'ils doivent aller passer un message de l'autre côté de la ligne de front. Et donc il y a toute une histoire machin, et en fait c'est de traumatisme en traumatisme hein. Vraiment c'est horrible, comme c'est tout tourné en plan séquence, t'as quasiment l'impression d'être en temps réel en permanence avec lui et tout, donc tu vis vraiment ces deux journées qui sont très compliquées avec lui, et en fait à la fin tu comprends qu'en fait il rentre chez lui en fait, et il ouvre son petit médaillon où il a sa femme et ses gamins, et tu te dis en fait il va rentrer avec tout ça dans sa poche, quoi. Tu vois, c'est avec tous ces traumas dans la gueule. Il n'y avait pas de psy à l'époque. Hein.
Non, il n'y avait pas de psy. Et puis, non, donc, ouais.
OK.
Voilà. Donc, c'est pour ça que le déclic, oui. Il y a eu un déclic. Il y a eu un moment où je me suis dit, je reprends ma voiture et puis je rentre.
OK. T'as combien d'enfants ? Je sais même pas.
J'ai trois enfants.
OK.
Trois enfants qui sont Clarisse, Victor et Valéria. Enfin, Clarisse, Valéria et Victor. Victor, le plus grand.
Qui ont quel âge ?
Qui a 16 ans, 14 ans et 10 ans.
Ok.
Deux filles et un grand gars. Donc, on a eu le choix du roi.
Oui.
Pour démarrer. Mm. Et puis après, la troisième, on n'a même pas voulu savoir si c'était un garçon ou une fille.
YOLO.
Ouais, YOLO.
D'où te vient ce désir de paternité, toi ? Tu me parlais de...
Moi, j'étais très tard. Hein. Ça arrivait très tard. Hein, parce que, en fait, je vadrouillais tellement. J'étais tellement à droite et à gauche. Et puis... un peu quand même dans les clubs Jet Tour Eldorador à m'amuser.
J'ai pas cette ref quand tu me dis ça.
C'est comme les clubs Med.
Ok.
Tu vois ?
D'accord.
Prof détaché à l'étranger, prof de tennis détaché à l'étranger.
Ok, d'accord.
Ah oui, moi j'étais dans les clubs Jet Tour, c'est comme les clubs Med en plus bas de gamme à l'époque. Et Pierre Barthès avait des clubs dans lesquels il avait des profs détachés.
Ah, je ne savais pas.
Okay. Et moi je faisais les spectacles du soir. Enfin, j'étais le roi. Donc j'ai eu une vie très riche, mais je ne rencontrais que des gens pendant très très peu de temps. Ouais. Et donc j'étais jamais resté avec quelqu'un plus de 3 mois dans ma vie.
Okay.
Jusqu'à un moment où quand je suis rentré en France. Je me sentais prêt.
Tu veux dire quand tu rentres au moment où tes parents, enfin où tu rentres pour ton père aussi,
ouais,
c'est ça ?
Tout à fait. Ouais.
En 2000.
C'était concomitant où je me disais, voilà, j'ai vadrouillé, j'ai fait ma vie, j'ai fait beaucoup beaucoup de choses et j'ai rencontré beaucoup 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 de personnes, beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup de je me suis vraiment éclaté et dans la culture et dans le sport. En plus, ça me donnait une espèce d'équilibre. Je me suis dit, là, il faut que j'ai besoin, je sens que j'ai envie de me poser et je me sens prêt à avoir des enfants. Alors, je me sentais prêt à avoir des enfants, mais je ne savais pas avec qui.
Ok. C'est important.
Et je chattais beaucoup.
Tu?
Je chattais beaucoup.
Sur Internet?
Ah ouais, mais moi, j'ai commencé très tôt. Tu sais, Internet, je pense un peu comme toi d'ailleurs. J'ai commencé en 94.
Pas mal.
En Suède, en fait, en 95-96, Internet commençait à être Internet pour tous, déjà. Et donc, j'ai commencé à chatter avec Mirk.
T'étais sur IRC, donc, c'est ça?
Exactement. Ouais. IRC, Internet Relay Chat.
Et pour les jeunes qui savent pas, en fait, c'est vraiment, je sais même pas, il y a pas d'équivalent aujourd'hui.
Il y a
plus d'équivalent. C'est des immenses salles de discussion à la fois.
Et puis tu sais pas qui est qui. Hein,
public et privé. Enfin, c'est hyper.
Et t'avais Are you real? Are you girl? Are you boy? Et puis voilà, tu avais des espèces de mots, de lettres que tu mettais.
ASV.
Exactement.
HXville.
Ouais, mais moi c'était en anglais parce que c'était j'étais en Suède.
Excusez-moi, monsieur.
Ouais, donc c'était pas ça. Et donc je chattais beaucoup et ça m'a j'étais très timide moi, donc j'avais beaucoup de mal à rencontrer les femmes en général. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup de boutons. Donc je m'isolais beaucoup, j'écrivais, j'étais très très en dehors des autres garçons et filles, et puis j'osais pas. Donc le chat m'a vraiment aidé à rencontrer des gens peut-être de manière beaucoup plus poussée que si je les avais rencontrés dans un bar. Parce que tu te rends compte au bout d'un moment quand tu chattes avec quelqu'un, pas si tu le fais pendant 2 semaines, mais au bout de 3 mois, 4 mois, que si elles ont menti à un moment ou s'ils ont menti à un moment, tu t'en rends compte tout de suite. Si toi, t'es honnête. Et ça m'a... j'ai rencontré voilà, des femmes fantastiques, dont une qui était en Turquie, avec qui on était resté en contact pendant des années et des années sans jamais se voir. Et puis je suis allé
vous
la voir.
Vous n'avez pas vu, mais Philippe a esquissé un petit sourire en repensant à la Turquie.
Ouais, 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 ouais. Et d'ailleurs, je la salue, hein, puisque on est plus en contact, mais je sais qu'elle est, voilà, elle est toujours, toujours à suivre un peu ce que je fais. Et ensuite, j'ai développé beaucoup de relations comme ça par le chat. Et par hasard, un jour, dans mon bureau à Brive-la-Gaillarde, j'étais sur ICQ.
Ah là là. Bah oui.
Tu vois.
Bien sûr. La petite fleur. C'est un logiciel de communication aussi, pareil. Hein, c'est...
Je pense que ça existe encore. Hein. Wow. ICQ. Ah ouais, je pense.
Il doit plus y avoir grand monde dessus, mais oui.
Et non, mais c'est un truc professionnel. C'est devenu professionnel, okay. Je pense. Mais à mon avis, ça existe encore. Donc ICQ et j'ai quelqu'un qui m'envoie un message et je savais qu'à l'époque déjà les bots existaient. Mm. On est en 2001-2002 et c'est là que je rencontre ma femme actuelle.
Incroyable. Par ICQ.
Ouais, par ICQ. Exactement. Et donc quand je l'ai vu, donc on a échangé, on a commencé à discuter, à chatter, et puis après à s'appeler, et puis après on est passé. Je suis parti là-bas.
Elle vivait où ?
En Russie. Oui, non, mais le truc simple.
Oui.
Enfin, c'est pas la Russie, c'est l'Ossétie, elle est Ossète, donc elle est du sud de la Russie, dans le Caucase, un endroit où il était plutôt déconseillé d'aller d'ailleurs à l'époque, et toujours maintenant, puisque c'est pas loin de la Tchétchénie.
Ah oui. Mais t'y allais par amour, toi.
C'est vrai que je suis tombé assez amoureux d'elle, et puis surtout des échanges qu'on avait, parce que je pouvais pas, moi, tomber amoureux de quelqu'un avec qui les échanges n'auraient pas été honnêtes, sûrs. Enfin, j'avais vraiment cette expérience aussi qui me permettait de me dire tu te planteras pas, ce qui a été après compliqué avec mes parents, par contre.
J'y reviens tout de suite, mais je crois qu'il faut qu'on explique aux plus jeunes qui nous écoutent, c'est que en fait à l'époque il y avait pas de photos, donc c'était que sur du visuel, pas sur du visuel, c'était que sur du texte, et en fait vous développez des centres d'intérêt, des discussions, des amitiés, des amours, etc., avec des gens que vous aviez jamais vus, ni d'Ève ni d'Adam, et en plus il y avait pas de photos, même sur les forums à l'époque c'était pareil, on pouvait discuter avec des tas de gens dont on ne savait jamais à quoi ils ressemblaient, quoi.
Non, après sur ICQ tu pouvais envoyer des photos, ça commençait
tout juste, mais
d'ailleurs elle m'avait envoyé une photo.
Et donc avec tes parents ça a été compliqué, pourquoi?
Bah après quand elle est venue quand ma femme,
tu l'as rapatriée, donc
bah en fait c'est pas que j'ai rapatrié, c'est que je suis allé là-bas pour voir comment ça se passait, où elle vivait, pour avoir un peu et puis connaître sa culture, parce que c'est vrai que moi c'est des cultures que je ne connaissais pas, et puis j'aime bien voyager en plus, donc j'y suis allé, elle est venue en France, je suis revenu là-bas, j'ai rencontré les parents. J'étais validé. J'ai été accueilli moi comme un fils. Ce qui a été moins le cas pour elle quand elle est venue, parce que il y avait une espèce d'appréhension, même si au début on le disait pas trop quand on s'était rencontrés sur Internet. Mais voilà, une personne de pays de l'Est qui vient en France. Mes parents me faisaient pas confiance, et c'est là où je te dis qu'ils me connaissaient pas. Parce qu'ils ne savaient pas, qui j'étais vraiment, et donc ça a été une de mes déceptions de mes parents. Je peux le dire maintenant puisqu'ils sont plus là, et puis c'est pas grave sur le fond. C'est qu'ils ne m'aient pas fait confiance comme ils auraient dû le faire, parce qu'ils ne savaient pas qui vraiment j'étais. Donc moi j'avais envie de les connaître eux, mais eux ils savaient que j'étais sérieux, mais voilà, et à un moment ma mère elle me disait, oula, mais elle disait à ma tante, mais il est pas homosexuel Philippe, parce qu'il ramène jamais de filles à la maison.
Bon, le mec cut partout dans le monde, laissez-le tranquille.
Ouais, exactement, c'était un peu ça, beaucoup même.
Je l'ai compris, ouais. J'ai vu ton œil malicieux quand tu t'es rappelé de tes vertus.
Je ne regrette pas.
Bah oui, j'espère pour toi. et donc... En fait, tu me parlais tout à l'heure de... Effectivement, donc là, t'as, t'as trouvé cette femme. Ouais. J'imagine dont tu tombes amoureux, etc. Ouais. Le désir de paternité, il vient quand? Tu me disais que tu avais bossé dans un centre d'éducation, c'est ça?
Alors en fait, moi, j'ai commencé ma carrière d'éducateur de tennis. Et tout de suite, j'ai bossé avec des gamins de 4, 5, 6 ans, même dans le théâtre aussi après. Et c'est vrai que j'ai toujours... pour moi, c'était très important d'avoir de l'autorité. Et j'ai tout fait pour essayer d'avoir une autorité copain-policier.
Ok. Et
ça, ça a toujours été ma... Et je l'ai découvert avec eux, mais sans forcément être le policier qui dit « c'est comme ça et c'est pas autrement ». C'est un policier qui contourne. Qui arrive.
Contourne,
ouais, je contourne en fait les décisions et je leur fais comprendre pas par l'obligation. Okay. Je leur fais comprendre par un moyen détourné.
T'as un exemple, par exemple, parce que là, je t'avoue, c'est un peu flou.
En fait, quand un gamin, je dois lui faire faire, par exemple, et là, je parle plutôt de la partie tennis. Quand je dois lui faire faire un geste particulier, au lieu de lui dire « il faut que tu fasses comme ça », je vais lui donner une image. Et là, et j'ai appris beaucoup ça de Pierre Barthès à l'époque. Par exemple, tu vois, on avait au tennis, quand tu joues, pour ceux qui connaissent le tennis ou le paddle, enfin tout ce qui est un peu à raquette, tu dois faire un allègement. L'allègement, c'est tu sautes en l'air sur les deux pieds pour pouvoir partir plus vite.
Okay.
Et lui, il appelait ça le cheval.
Ah oui, ok.
Tu vois,
ouais.
Quand tu servais, il fallait que tu fasses un geste un peu particulier et c'est très difficile le service au tennis. Et lui, il appelait ça le roseau. Et donc, cette méthodologie-là que j'ai apprise m'a énormément aidé pour essayer de trouver des images à chaque fois que je voulais faire comprendre quelque chose à un enfant pour détourner son attention et ne pas lui dire il faut que tu fasses comme ça ou il faut pas que tu fasses comme ça. Parce que c'est la pire des choses en fait quand tu dis à quelqu'un fais pas ça ou fais ci ou fais comme ça. Par contre, arriver à lui faire faire en lui détournant soit l'attention soit en utilisant une métaphore, t'as un résultat qui est complètement différent.
Ah, j'imagine.
Et assez immédiat. Et donc j'ai utilisé beaucoup ces techniques à chaque fois dans tout ce que j'ai pu faire. Et après dans le théâtre, il y a la magie de l'immédiat. Voilà, les gamins qui sont d'une créativité incroyable, qui fait que ça m'a beaucoup aidé dans la manière dont je me suis forgé en me disant je sais comment je veux élever mes enfants. J'ai été élevé d'une manière très cool à l'américaine, donc je voulais continuer à élever mes enfants de cette manière-là, mais toujours en ayant des règles qui sont d'abord quand je dis une chose, je change pas d'avis et en essayant d'avoir le plus d'autorité possible sans être autoritaire, en contournant et en trouvant des moyens.
Okay. Ok, ok. L'autorité sans être autoritaire.
Et quelque part, tu sais, tu le retrouves parce que quand t'as... Alors, bon, on peut pas savoir quel genre de gamin on a et on sait pas si... Est-ce que c'est nous qui faisons que les gamins deviennent comme ça,
oui.
Ou est-ce que c'est le gamin qui a des gènes qui fait que...
Donc, la foule à poule.
Voilà, là, c'est compliqué. Donc, je pourrais pas te confirmer que c'est ça qui est la solution. Il n'y a pas deux solutions, mais pour moi, je pense que... c'est comme ça que j'arrive à avoir une intelligence dans la relation. Et j'ai besoin de cette intelligence-là, j'ai besoin de la confiance qu'on peut créer avec, à des moments, voilà, des décisions qui ne sont pas arbitraires, mais qui sont quelque part un peu logiques. Et quand il y a la logique, il y a de l'intelligence, et quand il y a de l'intelligence, il y a du respect, et quand il y a du respect, tout se passe bien.
D'où te vient ton désir de paternité, alors ?
Je pense que j'étais un enfant assez heureux avec ma sœur et je trouvais que c'était cool d'être avec des parents cool. Donc moi j'avais envie d'avoir des enfants, j'avais envie d'avoir 5 enfants au début.
Ok.
Et puis on en a fait 1, 2, 3 et puis en fait le premier voilà c'est assez exceptionnel. Le deuxième, c'est aussi impressionnant. Et puis après, on s'est dit, bon, entre 2 et 3, il n'y a pas grosse différence. Après, 4, on s'est dit, bon, est-ce
que dans un autre game.
Ouais, voilà. On rentre dans un autre game. Est-ce qu'il n'y a pas. Mais en même temps, je me disais, mais pourquoi calculer? Mais bon, et puis après, la vie fait que.
Pourquoi tu voulais une famille si nombreuse?
Pour moi, je trouve que c'était une espèce de richesse illimitée. C'est-à-dire que je pense que même si tu as 8, 9 gamins, ils t'apportent tous un truc en plus. Et je me disais que aussi, ça peut créer entre eux des liens que quand on est un ou deux, tu vois, moi avec ma sœur, on est proches, mais on n'est pas fusionnel. Et je pense que quand on a une famille plus nombreuse, il y a plus d'atomes en fait qui peuvent se créer.
Okay.
C'est peut-être faux, hein, c'est peut-être complètement une idée que je me fais, mais c'était cette idée que j'avais en tête. Et puis je trouve que c'était c'est agréable d'avoir des enfants. Après faut avoir et les finances et la capacité à le faire. Mais
tu trouves que les fratries à trois c'est toujours compliqué? Parce que c'est toujours deux contre un.
Celui du milieu.
Bah oui, par exemple, entre autres.
Ouais.
Et c'est toujours deux contre un. Et de ce fait-là, et quand je dis deux contre un, c'est pas forcément qu'ils sont deux contre un, mais il y a toujours cette dynamique-là qui est sous-jacente un peu, où il y a celui du milieu, effectivement, qui est big up mon frangin, parce que moi j'étais l'aîné et on a une petite sœur. Et en fait, c'est vraiment la pire place, je trouve, la place du milieu. Vraiment. Si vous écoutez et que vous êtes au milieu, désolé pour vous.
Ouais, je pense que c'est toujours compliqué parce que d'abord ils prennent toujours une place différente les uns les autres et la dernière est souvent gérée de manière beaucoup plus cool et donc c'est celle du milieu qui ou celui du milieu qui en général a plus de mal. En tout cas moi dans les fratries où il y a trois enfants, c'est vrai que celui du milieu est toujours plus c'est toujours plus complexe en fait. Après nous c'est vrai que on n'a pas Valéria elle a son caractère comme les autres.
Elle a 14 ans, c'est ça?
Ouais, elle a 14 ans, ouais. Ouais.
D'accord.
Non, là maintenant c'est juste
c'est mieux.
Ouais, c'est et puis là elle s'entend bien avec son frère, ce qui était un peu moins le cas, ce qui est normal. Après moi ça m'inquiète pas, ça les ce qui est important c'est d'avoir de ressentir ce dont je te parlais avant pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire que j'arrive à créer cette espèce de d'intelligence, de respect, de confiance. Aussi moi on m'a énormément fait confiance et je trouve que c'est super valorisant de faire confiance à un gamin avec des règles bien entendu mais des règles qui ne sont pas arbitraires.
En même temps, tu me disais que tes parents, quand t'es venu avec ta future femme, ils étaient là.
Oui, mais ils n'avaient pas le choix là. Enfin, c'était.
Non, je sais. Ouais, ils te connaissaient. Je veux dire, ils te connaissaient pas forcément autant que tu pensais qu'ils te connaissaient, ouais. Quoi.
Ah, mais moi, je me suis construit tout seul. Hein.
Oui,
ouais, je me suis construit tout seul. C'est pas mes parents m'ont donné une jeunesse super agréable. Je suis parti à 16 ans parce que ma mère m'a dit
bah,
est-ce que ça te dit de partir? Et moi je t'avoue, alors faut dire quand même que la première fois que je suis parti en Angleterre j'avais 9 ans, première fois que je pars aux États-Unis pendant un mois 13 ans en famille d'accueil mon rêve c'était de vivre aux États-Unis et puis donc elle savait que j'avais cette appétence
pour linguer quoi.
Ouais, de pour bouger et elle était partie de chez elle quand elle avait 16 ans en s'engueulant avec sa mère donc elle savait que ça lui avait apporté tellement aussi de voyager qu'elle voulait aussi que je voyage et je fais pareil avec mes enfants, j'espère qu'ils vont bouger beaucoup.
J'allais te demander comment ça se concrétise ce truc de mettre en place une relation avec tes enfants. Tu disais individuel, tu vois, dans le quotidien. Avec les trois différemment, j'imagine, parce qu'ils ne sont pas les mêmes.
Non, ils ne sont pas les mêmes. Moi, je suis très, je suis très câlin, ce que mes parents n'étaient pas du tout. Mmh. C'est souvent, on prend toujours ce qu'on n'a pas eu en général. Mmh. Donc, je suis très câlin et je pense que c'est... j'essaye de m'intéresser le plus que je peux. Alors c'est comme tout, hein, on est toujours chargé par le boulot, même si on est nous en province et que c'est moins speed. l'environnement sonore, l'ambiance, enfin tout est moins speed que dans les grandes villes. Mais j'essaye de prendre du temps pour essayer d'abord de m'intéresser à ce qu'ils font, parce que ça m'intéresse. Moi, je suis très geek, donc quand ils sont sur TikTok ou sur toutes les applications ou les jeux vidéo, je m'intéresse. Et puis moi, j'ai suivi ça quand même de très près et je savais ce qui était plus ou moins bon et plus ou moins dangereux, même si on n'est jamais... on n'est jamais sûr, mais d'être avec eux, de les suivre et puis d'essayer de rentrer dans des... pour moi, c'est vraiment l'intelligence de la discussion, individuellement. Après, en groupe, c'est plus compliqué parce que ils ont chacun leur personnalité et c'est bien.
Famille, c'est ça?
Ouais, famille, on fait pas de réunion, on dit allez, c'est la réunion de la famille.
Pendant les moments de repas, j'imagine.
Ça se faisait à l'époque. Oui, il y avait des réunions de famille ou alors les parents décidaient, c'était comme ça. Il fallait. Enfin, moi, j'avais pas ça, mais je sais que dans des familles, ça se faisait.
Ok.
Ils réunissaient les enfants, il y avait des décisions qui étaient prises et tout le monde était. Donc nous on est non on
des
est pas
plénières quoi.
Ouais, c'est un peu des plénières, non. Donc c'est plutôt dans la discussion, dans la compréhension et puis dans la confiance en disant voilà, de toute façon quelle que soit la connerie que vous faites ou que vous pourriez faire dans le futur, faut nous le dire parce que de toute façon on va pas vous juger hein.
Et ça marche ça?
Écoute,
en théorie
ça marche après sauf contraire jusqu'à maintenant, mais moi c'est en tout cas j'ai envie d'y croire et j'ai envie d'installer ça avec mes enfants. C'est ce que je pense j'arrive à faire. J'ai le grand qui est qui a vraiment tout pigé et qui est vraiment dans ce dans, j'ai l'impression de me voir quand j'étais gamin, mais avec en plus des parents qui sont beaucoup plus proches de lui, et lui il a envie de bouger, donc il va
certainement... Tu vas 16 ans là, tu vas bientôt lui dire il faut y aller.
Non mais lui il a envie hein.
Ouais.
Ah ouais.
Non, je suis pas en train de dire que tu vas le foutre à la porte, juste de l'inciter aussi à regarder.
Oui, non mais enfin moi j'ai pas du tout envie c'est pas négatif ce que je veux dire, mais je trouve qu'il faut que les gamins voyagent, il faut que les gamins voient d'autres pays parce que la France c'est fantastique, c'est magnifique, mais on peut l'apprécier plus tard. Là, il l'apprécie en tant que jeune. Il faut qu'il puisse voir comment ça se passe dans les autres pays, quelles sont les mentalités, pourquoi est-ce que c'est magnifique de rencontrer des gens qui parlent différentes langues. Ça t'apporte une richesse, une ouverture d'esprit, et puis de parler plusieurs langues aussi. Il adore parler anglais, donc je l'ai pas forcé en fait. C'est vraiment lui qui fait ça, et les autres, je pense, feront pareil. Après, si y en a une qui veut pas partir, qui veut rester en France, je vais pas l'obliger. Moi, je vais pas. Mais c'est vrai que si je peux les inciter à bouger pour avoir cette ouverture d'esprit, je le ferai parce que je sais ce que ça peut apporter. Même si c'est pas facile c'est peut-être plus facile quand on est maman, quand on est papa, quand on est maman, on n'a pas trop envie que ses enfants partent trop 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 loin.
Tu ressens ça chez ta femme?
Ouais, je pense qu'elle
le freine un peu.
Non, elle freine pas, mais c'est vrai que c'est je pense que c'est naturel aussi, le côté on a envie de protéger ses enfants et de savoir qu'ils sont proches de soi.
Oh, il y a un peu de tout hein, chez les femmes, tu vois. Ouais. D'expérience, là, tu vois, il y a un peu de tout. Tes enfants ont la double culture, alors ?
Non, ils n'ont pas la double culture parce que ma femme, quand elle est arrivée, parlait pas français. On parlait en anglais. Et elle a appris le français très, très bien, vraiment super bien. Et en fait, elle n'a pas trop osé leur parler en russe. Par respect pour les gens qui étaient autour voilà, et puis ça s'est fait comme ça. De toute façon, si alors là c'est un peu plus compliqué maintenant hein, puisque on n'a pas été depuis 5 ans suite aux événements, mais je sais que et Victor et les filles si elles y restent, ils y restent 3 ou 6 mois, ils arriveront à parler russe parce qu'ils entendent ma femme parler, et puis je pense qu'ils auront peut-être envie un jour de parler russe et ça ira très vite.
Elle parle dans quel contexte alors ?
Avec ses sœurs.
Ah oui, ok, au téléphone ou
avec ses sœurs et puis voilà, et puis il y a des contenus qu'elle regarde régulièrement.
Ok. Ça m'intéressait, en fait, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais revenu pour travailler avec ton père dans la radio.
Ouais.
Ton père faisait de la radio, c'est ça ?
Mon père avait lancé, en fait, en 78, la lettre de l'audiovisuel, qui était une lettre qui était envoyée au patron de toutes les télé, radio, presse écrite, showbiz. Et il a été rédacteur en chef pendant 30 ans. Et puis un jour, il a décidé de créer le guide professionnel de la radio en 97. Et moi, j'ai fait la première maquette sur Quark Express.
Quark Express, les jeunes, alors ouais. C'est...
Je sais même pas quels sont les logiciels c'est de mise en page aujourd'hui.
InDesign. InDesign de l'époque.
De l'époque, carrément.
Et donc, j'ai appris Quark Express et je l'ai aidé à faire la maquette. Et puis, c'était une période où j'étais entre 3 ans en Suède, 1 an à Paris. J'ai bossé dans une boîte de post-production en 97. C'était le premier montage virtuel à l'époque avec Avid. Avid venait d'arriver, Mediasan.
Avid, effectivement, c'est l'ancêtre de Final Cut ou ouais, de Premiere, quoi.
Exactement. Et on montait avec des disques durs de 9 gigas en slave, en pair. Enfin bon, ça, je te raconte pas. Et c'était à Boulogne. Je bossais à Boulogne dans une boîte qui s'appelait Prêt à diffuser. D'une boîte France Audiovisuelle et j'étais directeur d'exploitation et je faisais des montages virtuels et il avait créé ce guide et je lui ai dit bah, si tu veux je t'aide donc je l'ai maquetté et puis après le capitaine de la Coupe Davis m'a rappelé pour prendre la direction du club donc je suis reparti en Suède et en revenant en 2000 il avait encore le guide et je lui ai dit si tu veux on continue le guide et donc on a continué le guide et en 2003 on a créé un salon et puis après quand il est décédé, j'avais un projet de créer la lettre de la radio. Lui, il me dit non, la lettre de la radio, il faut reprendre la lettre de l'audiovisuel. Je lui dis, mais moi, la vidéo, je veux pas. J'aime pas la vidéo, c'est pas le même milieu, c'est pas le même secteur. Et j'ai sorti les cartons de la lettre de la radio à sa mort en 2010. Et puis, ça fait maintenant, quasiment, on en est à la 12e saison qui démarre en septembre.
Tu l'aurais lancé si ton père n'était pas mort ?
Non, je pense pas. Non, je pense pas. Il voulait racheter la lettre de l'audiovisuel, qui existe toujours d'ailleurs, hein, c'est Sandra Müller qui a repris la lettre de l'audiovisuel. On a lancé la lettre de la radio, parce que moi, j'étais plus à l'aise là-dedans. C'est pas un milieu où il y a beaucoup d'argent. Comme dans le podcast, hein, c'est un peu pareil. Hein. Mais c'est un milieu de passionnés. Et moi, c'est ce que j'ai aimé, c'est que j'ai rencontré des gens et que j'ai vraiment toute une population autour de moi depuis maintenant plus de 20 ans, parce que j'ai créé en 2001 Édition HF. Depuis plus de 20 ans, qui me sont fidèles depuis ce temps-là et qui me permettent aujourd'hui d'être là face à toi parce que c'est eux qui m'ont soutenu pour pouvoir continuer 2023 qui n'était pas gagné.
Tu dis en termes de sous ?
Ouais.
Parce que c'est compliqué, c'est un business model compliqué.
Ben on est sorti, le Covid nous a... Moi je veux, si tu veux, je suis sorti de 2022 avec un chiffre d'affaires de 750 000 euros. C'est une petite boîte, hein. Mais 70% de mon chiffre c'était le salon. Donc j'ai perdu 70% de mon chiffre d'une année sur l'autre. Donc ça a été la descente un peu aux enfers à un moment où
c'est le salon de quoi tu dis le salon
c'est le salon de la radio
le salon de
la
radio
ouais ça s'appelait le salon de la radio à la Grand-Halle de la Villette
qui se passait pas
et qu'on a renommé Paris Radio Show en juin l'année dernière on a essayé de le relancer mais on a perdu le blé au moment où j'en sais Podcast Magazine au moment où je perdais ma mère au moment où voilà donc tout s'est cumulé mais on est là
et on est vivant
et on a des beaux enfants.
Tes enfants, ils s'intéressent au podcast un petit peu ? Tu as réussi à les picouser un peu ou...
Oui, parce que en fait, j'ai pas trop d'intérêt pour ce que je fais à la maison.
tu veux dire que tes enfants n'en ont pas ?
J'amène au début, j'avais un petit magazine qui s'appelait Le Pod, donc j'amenais les pods. Bon, ils lisaient un peu, et puis bon, ils naviguent, ils lisent, mais voilà, ce sont pas mes plus grands fans de ce que je fais au niveau professionnel. Victor voulait bosser avec moi. Il disait qu'il voulait bosser avec moi. Bon, on verra plus tard si je suis encore dans ce secteur quand il sera sur le marché du travail. Mais il avait envie. Après,
tu sais pourquoi ? Vous en avez parlé tous les deux ou...
Non.
Ok.
Non, c'est un truc dont on n'a pas parlé. Mais quand il le dit, je trouve ça mignon.
Mm-hmm.
Je trouve ça touchant et puis je lui ai dit, tu sais, moi, j'avais pas envie de travailler avec papa, et puis c'est venu naturellement, donc si ça vient, ça viendra naturellement. Mais le podcast, non, ils sont intéressés un peu à la radio, parce que j'avais offert des récepteurs qu'on avait offert à toutes les radios pendant le salon 2019, et après ils sont revenus avec leur récepteur, ils ont commencé à écouter la radio parce qu'ils avaient un récepteur de radio, et puis après ils ont arrêté parce qu'il y a les téléphones. Non, ils sont pas franchement fans de podcast. Mais tu sais, en région, le podcast, c'est... Nous, on a fait une étude là sur Brive-la-Gaillarde. C'est impressionnant. Personne n'écoute. On a fait une étude sur 390 personnes avec des réponses directes de qui écoute. C'est...
Bah, pour moi, ça cible avant tout Paris, et puis après les grandes villes françaises, quoi. Ouais, tu vois, c'est sûr que Brive, c'est peut-être petit, quoi. Tu vois.
Oui, et puis c'est pas une population. C'est une population qui est pas forcément très orientée au téléphone, même s'ils en ont. Il y a pas beaucoup de jeunes. C'est pas une ville étudiante, donc c'est normal. Hein, on est quand même dans des. Mais ça peut. Enfin, je pense que le jour où on aura une star du podcast qui explosera et dont tout le monde parlera. On en entendra parler partout en France.
Tu veux dire
du podcast?
Ah oui. Aujourd'hui, tu crois qu'elle n'y est pas encore?
Non.
La star du podcast?
Ah non, il n'y a aucune star du podcast. Et on est aujourd'hui, par bon nombre de gens connectés à Internet, à 14% qui connaissent le podcast. Des gens connectés à Internet. Plus toute la génération baby-boomer qui a les moyens de prendre des abonnements et qui a un téléphone portable, mais qui ne savent pas comment écouter le podcast.
Par rapport aux US, c'est quoi la différence? T'as en tête ou pas?
Les US, on est à peu près au double, à peu près. Ouais,
j'allais dire 30% de tête, mais...
Ouais, on est à...
30% de gens qui écoutent des podcasts.
On est à 28%. Par contre, Amérique du Sud, 42%.
Ok.
Ce qui est surprenant.
Ouais.
Et Angleterre, 24, ouais, un peu plus de double que la France. Et le Québec, à peu près pareil. On est 44e en position.
Ah, incroyable. Mais c'est dû à quoi, tu crois?
C'est nouveau, en fait, tu sais. Et puis, la France, le français, 80 000 podcasts francophones, 20 000 actifs.
Oui. C'est sûr.
Donc, on n'est pas à 5 millions de podcasts.
Oui, c'est sûr. Tout arrive à tous les moments. Pour revenir à tes enfants, tes enfants, ils savent déjà à peu près ce qu'ils veulent faire dans leur vie? T'as des vocations qui se sont déjà créées? Peut-être pas chez la 10 ans, mais chez la 14 aussi.
Ouais, écoute, Victor, Alors, il s'est toujours intéressé à tout ce qui était un peu espace, cosmos. Okay. Et puis, il s'est débrouillé pour trouver un stage à Paris il y a 2 semaines, là, en cosmologie. À la PC à Paris.
La classe.
Il s'est débrouillé pour avoir un stage.
Il s'est démerdé tout seul.
Tout seul. Il s'est démerdé tout seul, il l'a eu, il a fait son stage, donc maintenant il adore Paris.
Ah bah oui. Il va te mettre un peu le pied de nez, quoi, en disant, t'as vu papa? C'est super, toi tu détestes Paris, mais moi j'adore.
Bon, en même temps, j'aimais bien Paris aussi quand j'y étais. J'ai failli acheter un appart et y vivre, mais bon, je suis reparti en Suède. Mais il a envie de soit ça, soit tout ce qui est un peu économie. Il s'intéresse un peu pas mal à ça, donc là il passe en première, donc c'est maintenant que ça commence à être sérieux.
Ah ouais, il a un peu le temps en même temps.
Ouais. Et puis il est très très sportif, beaucoup de sport, beaucoup plus que moi à son âge.
Il fait du tennis?
Il a fait beaucoup de tennis, je l'ai pas forcé, je l'ai pas poussé, on a joué, je lui ai appris, et après il a fait beaucoup de pelote basque.
Ok.
À Brive,
il y a de la pelote.
Et écoute, c'est le premier club du sud de la France, enfin tu vois, il n'y en a pas au-dessus. Ah oui. Il n'y a que Brive, en fait. Okay. Après, c'est plutôt dans le sud.
Ouais.
Et ça lui plaît vraiment beaucoup. Incroyable. Et là, il a attaqué le MMA.
Rien à voir.
Non, mais c'est de l'entraînement, hein. Il ne fait pas de compète. Oui. Avec un ami à moi là, qui a monté un club dans un petit village.
Tout ça lui est venu, la pelote basque, c'est quand même...
Je pense que c'est un pote à lui à l'école qui jouait et qui fait partie son père était président, il lui a proposé de venir jouer. Il a joué. Alors c'est avec une raquette de tennis quand même.
Ah ok, d'accord. Je croyais que c'était avec des vrais schistera là.
Alors non, ça c'est après. Okay. C'est une fois que tu... Mais t'as... Je sais plus combien. Il y Il y a des dizaines de différentes
ah oui,
pelotes
de
basques.
C'est
un enfer.
Comme jouer à la main, quoi.
C'est avec une raquette de tennis, mais c'est sur des grands murs immenses, oui. Avec des petites balles qui rebondissent n'importe comment. J'ai essayé, moi, de. Je me dis, oh, c'est facile, moi, un homme de raquette, j'adore le squash, j'adore le paddle, j'adore le tennis. Tu parles, impossible de faire. C'est un enfer. Donc, ouais, pelote basque et puis voler. Ouais, donc il fait quasiment tous les soirs. Mais puis, on a la chance de vivre en centre-ville. Il est autonome. Depuis qu'il est en sixième, il va à l'école en vélo. Enfin bon, c'est top dans des petites villes comme ça.
Comment ça se passe avec tes filles? Parce que là, tu me parles beaucoup de ton fiston.
Ouais, bah, c'est le plus grand. C'est celui avec qui on a fait pas mal de choses. Et puis, Valéria, elle est passionnée de cheval.
Ok. Alors le dada.
Ça, ah ouais, c'est cheval. Elle veut être vétérinaire. Et puis elle veut s'occuper de chevaux et elle a déjà commencé à imaginer comment est-ce qu'elle allait, elle allait faire. Ouais, c'est une passionnée de, et c'est génial parce que bon, elle aime bien sûr comme tous les jeunes, tout ce qui est jeux vidéo et puis téléphone. Mais là, tu vois, pareil, elle s'est décidée à devenir bénévole au club où elle est. Et donc, elle va y aller tous les matins en juillet au club d'équitation. Tous les matins, elle va y aller pour aller aider, donner un coup de main. Et puis elle fait un stage pendant 15 jours. Donc, tout juillet, elle va être dehors avec les chevaux. Et elle adore ça, quoi. Donc, c'est sa passion. Et puis le côté véto, le côté aider les animaux. Je pense qu'elle peut-être se spécialise dans les chevaux, mais
cool.
En tout cas, ouais, elle est comme beaucoup de jeunes de son âge, mais on sent vraiment la passion. Puis là, elle s'est mise au piano. Voilà,
ok. C'est vraiment...
Mais alors qu'on n'est pas du tout pianiste dans la famille. Mais...
Bon, et ta petite dernière alors, 10 ans.
Ah, la petite dernière, c'est la.
C'est chouchouillette,
ouais,
c'est ça.
Ouais, c'est la petite chouchouillette. La petite Clarisse qui est toute mignonne et qui elle, bah écoute, elle a 4 ans d'écart, donc obligatoirement, elle est un peu.
Elle court après
voilà,
un peu.
Hein. Donc quand on joue tous avec les autres, bon, elles sont un peu derrière, mais ça, honnêtement, ça se passe très bien. Elle ne sait pas ce qu'elle veut faire du tout. Mais oui, pour l'instant, enfin, elle a des idées, bien entendu, mais 10 ans, voilà, c'est, donc c'est tout mignon.
Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je ne t'ai pas amené, dont tu aurais aimé parler, de parentalité? Paternité?
Non, écoute, non, je pense qu'on a fait un bon tour. Moi, c'est vrai que je me régale à être parent. Puis quand t'as des gamins qui sont cool, c'est vrai que c'est encore plus agréable. C'est vrai que c'est peut-être moins difficile. C'est peut-être plus difficile si t'as des enfants qui ont des soucis de santé ou des soucis autres. Nous, on a cette chance, et je touche du bois, cette magie d'avoir des enfants qui sont super gentils avec, et je trouve que c'est bien avec des personnalités. Et il faut qu'ils prennent leur personnalité, il faut qu'ils en aient parce que la vie elle est
pas simple. Monde de merde hein, quand même dans lequel on les amène là.
Ouais,
c'est pas fastoche, hein.
Ouais, et puis ils ont passé quand même une période assez unique hein, là.
Covid là.
Covid plus guerre, enfin, ouais, tout ça là, économie plus.
Ils sont impactés par la guerre en Russie, en Ukraine, par leur mère.
Très peu.
Ouais.
Non, très peu parce que d'abord c'est compliqué vraiment de savoir ce qui se passe, même si on a une meilleure vision d'ici, je pense, que de là-bas. Donc après, elle en parle très peu avec ses sœurs, mais il y a pas, si ce n'est le fait de pas pouvoir y aller.
Oui.
Tu vois, Victor aurait adoré pouvoir et même les filles, tu vois, pour aller là-bas, pour aller voir les cousins, parce que c'est complètement dépaysant le Caucase. C'est super joli et puis il y a une culture là-bas et quand t'es là-bas c'est vraiment ce côté familial, tu sais, ce côté qu'on a très peu en Europe, tu vois. C'est ça que je vois qui aurait pu apporter beaucoup aux enfants aussi si on avait pu y aller plus, c'est le côté très individualiste qu'on a en Europe de gérer la famille, les cousins, les amis,
Là, il y a un vrai côté, il faut un village pour élever un enfant, c'est ça, dans le Caucase?
Ah ben, c'est... Ouais, putain, t'es accueilli, vraiment. Ce qui est beaucoup moins le cas quand tu es dans une famille, dans une famille européenne. Il y a des exceptions.
Bah oui.
Il y a des exceptions.
Podcast Magazine, donc, Le prochain numéro, il sort en octobre?
Oui, ouais, il sort en octobre. Et puis, on va essayer d'en sortir un tous les 6 mois. De faut tenir parce que c'est un projet auquel je... Ouais, que j'aime bien. Mmh. J'aime bien tous ceux aussi qui bossent dans le podcast. Mmh.
C'est un format un peu hybride, hein, parce que c'est à la fois pour vous, si ça vous intéresse, si vous voulez devenir podcasteur, mais si vous écoutez des podcasts, il y a aussi du contenu, donc il y a un peu pour tout le monde, quoi.
Ouais, en fait, c'est ce que j'essaye de faire quand, tu vois, savoir un peu plus sur toi, pour ceux qui s'intéressent un peu à toi, il y a des podcasteurs à découvrir qu'on connaît pas, et puis des choses sur leur vie, sur leur matériel, sur leur manière de faire, de vivre. Donc c'est, en fait, c'est un espèce d'objet... non identifié, qui j'avais voulu lancer ça avec une boîte de marketing, elle m'aurait dit jamais, il faut trouver une cible et pas à trois. Moi, je suis parti un peu à l'arrache parce que je le sentais et je sens que le podcast, l'univers du podcast est représenté dans ce magazine et c'est ce que j'ai envie de voir dans le magazine. Après, la finance, verra bien.
Le nerf de la guerre.
Ouais, bon, écoute, tant qu'on peut s'amuser, qu'on n'est pas... et que ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça. Et puis maintenant, voilà, j'espère que la période la plus dure est passée et que maintenant, il y a une explosion de ce média magique qui est incarné et qu'on a envie de suivre et auquel on a envie d'appartenir.
Merci Philippe. Je vous remercie à toi.
Un grand merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pensez à rejoindre le serveur Discord pour venir commenter avec le reste de ma commu. Je vous trouverai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et si mon travail vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez m'offrir en échange un peu de sérénité en vous abonnant à mon Patreon ou en m'envoyant de l'argent en vous munissant de votre CB. Vous trouverez tous les liens dans les notes de cet épisode également. Bonne fin de journée et j'espère à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.